voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Dans cette série La Voix du Kaizen, je donne la parole à ces super-héros que sont les paysans. Ces hommes et ces femmes qui ont fait le choix de suivre leurs valeurs et qui œuvrent pour une agriculture respectueuse des écosystèmes. Avec nous, Hervé Rica, qui nous présente son projet et son lieu de vie, la ferme du Marpin. Donc pour poser le cadre dans un premier temps, c'est vrai que là on va l'entendre dans le micro, il y a un peu de vent. On est au milieu de la nature, avec sur la table une tisane, avec les plantes du jardin, des fraises, du miel qui apparemment a été produit ici aussi. Donc je vais laisser Hervé nous introduire le lieu, nous dire un petit peu où on est et recréer une dimension visuelle à celui qui écoute cette émission.
Bonjour à vous d'abord. C'est un plaisir de vous accueillir sur la ferme, puis dans notre lieu de vie. Donc du coup, on est sur une petite commune du département de la Loire, dans une région un peu de bocage. C'est une région un peu de colline qui est plutôt tournée vers l'élevage, qui était autrefois une zone polyculture, élevage, un peu tout, très diversifié, et qui s'est hélas un peu spécialisé plutôt vers l'élevage d'animaux à viande. Et du coup, c'est pas forcément quelque chose qui va dans le bon sens de la diversité. On vit bien dans notre région parce que c'est une région assez paisible et tranquille.
Tu disais, on est ici dans notre ferme. Alors qu'est-ce que c'est que cette ferme ? Qu'est-ce qu'il s'y passe ?
Alors la ferme du Marpin, donc sur cette petite commune, c'est une petite ferme de petite dimension par rapport à la tendance des fermes d'élevage de cette région. Donc on est sur une ferme de 35 hectares en polyculture élevage diversifiée. Et depuis, avec Babette, on est paysan et paysanne depuis une trentaine d'années. Depuis 20 ans, on a pris l'option, on s'est tourné vers l'agriculture biologique, qui est plutôt la tendance un peu à agrobiologie, quoi. Voilà.
Donc avant de parler de différents termes là, qui m'intéressent de définir, donc l'agroécologie, on a parlé aussi de polyculture, mais tu parlais aussi de paysan et paysanne. Donc qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'un paysan ? Qu'est-ce que tu mets derrière les mots paysan ?
Ouais, alors ce mot paysan qui était autrefois quelque chose qui était plutôt péjoratif un peu. C'est vrai que j'aime bien l'utiliser parce que c'est vrai qu'il ouvre quand même bien assez le débat, et je trouve qu'il est assez vrai dans le contexte actuel, en disant le paysan c'est quand même quelqu'un du pays. Et quelqu'un qui va aussi, qui fait partie du paysage et qui va, à sa manière, façonner le paysage, quoi. Un peu comme un artiste qui va faire un tableau, qui va faire une chanson, qui va faire de la peinture, qui va faire une sculpture. Nous, on est un peu, quelque part, je me dis, on est un peu responsable de ce que l'on voit et du lieu sur lequel on vit. Et du coup, on le modèle un peu à notre patte. Et c'est un peu dans ce sens-là que je dis paysan. Paysan, paysage, pays, enfin voilà, c'est des termes qu'on utilise comme ça, assez pédagogique, mais quelque part je trouve que c'est bien vrai. Il y a un côté artistique dans ce mot paysan.
Donc il s'oppose à ce qu'on appelle l'exploitant agricole.
Ouais, voilà, c'est vrai que l'exploitant agricole, on tombe tout de suite dans un peu, c'est assez représentatif du monde dans lequel on vit maintenant, un monde un peu axé sur le profit. Sur le profit, sur les marchés ouverts, etc. Bien que dans notre quotidien, gagner notre argent, c'est quand même quelque chose qui nous fait rester aussi. Parce que si on était malheureux, même à cause du côté économique, on ne tiendrait pas. Il faut quelque chose qui soit soutenable financièrement et en même temps qui soit un vrai plaisir, quoi. Parce que le vivant, notre métier qui tourne autour du vivant, c'est très ingrat, ce sont des équilibres. On gère des équilibres, c'est parfois en déséquilibre, et c'est le vivant, donc ça laisse beaucoup de place à l'aléatoire, notre boulot. Et du coup, on en vit financièrement, donc du coup, on peut pas, il faut être vigilant, quoi. Il faut être très vigilant.
Dans ton histoire personnelle, qu'est-ce qui t'a amené à être paysan? Est-ce que c'est un choix? Comment est-ce que tu en es venu à développer la ferme du Marpin? Qu'est-ce qui t'a amené dans ton itinéraire à t'installer ici, à développer ce projet de polyculture?
Depuis tout petit, je suis vraiment, alors vraiment attiré par les. Depuis tout petit, je suis vraiment attiré par les animaux, en particulier les vaches. Je crois qu'il y a un des facteurs déclenchants. Je crois qu'un des souvenirs les plus lointains dont je me rappelle, je me revois dans les bras de mon père en Italie sur la petite ferme de famille de mes arrière-grands-parents dans le Piémont à côté des grands lacs. C'était une toute petite ferme et je me revois dans les bras de mon père devant une vache qui avait fait son veau, qui est une petite vache rousse, je la revois rousse avec les yeux faits un peu comme celle que j'ai maintenant, un peu la race au braque là, et d'être impressionné par cette vache et je pense que peut-être j'ai toujours été attiré par ce côté aussi des animaux. Franchement, ça m'a vraiment donné envie de faire des études agricoles après, et malgré que mon origine elle était plutôt urbaine, hein, puisque mon père était maçon, et du coup c'est vraiment une espèce d'énergie ou de force intérieure qui m'a amené sur cette voie, sur ce chemin-là, et du coup je pense que pour toute personne qui a un lien à la terre, son grand rêve c'est d'y mettre les mains dedans, d'en faire plus ou moins son métier, mais tout au moins d'y mettre les mains dedans, quoi. Et moi du coup je voulais aller plus loin, autant on peut mettre les mains dans la terre avec un jardin, avec un carré de terre. Mais dès qu'on veut des animaux, les animaux c'est vraiment lié au sol, et les gros animaux il faut de la place et on peut pas s'en occuper comme ça les week-ends ou c'est quelque chose après qui on en fait un métier, quoi. Voilà un peu mon histoire.
Donc pour la résumer, à faire un peu raccourci, donc c'est vraiment un goût du vivant, un goût de la nature qui t'a amené à vivre dedans et à vivre entouré d'animaux. Comment on s'y prend pour devenir paysan ou agriculteur, parce qu'il y a plein de formations différentes? Comment est-ce que tu as choisi dans tout le panel des formations qui te sont proposées? Et pourquoi est-ce que tu t'es dirigé vers l'agroécologie?
Pour être paysan, c'est très complexe. Parce que paysan, c'est quand même avoir de la terre, quoi. C'est ce rapport au foncier, c'est ce rapport à la terre. Et l'accès à la terre est quelque chose d'assez difficile. Bon, bref, j'avais fait des études agricoles puisque ça me plaisait bien. Donc, du coup, j'ai fait un parcours relativement assez classique. J'ai fait des études agricoles. Et puis, mes parents, comme ils n'étaient pas agriculteurs, j'ai voulu travailler un peu dans le domaine de l'agriculture. Et puis, donc, il y avait aussi, après les études, il y avait, à notre époque, le service militaire à faire. Puis du coup, j'ai préféré partir à l'étranger en tant que VSN pour une association qui s'appelle France Volontaire. Et donc, je suis parti 3 ans en Afrique. Il y avait des contrats de 2 ans, donc du coup, j'avais prolongé d'une année. Je partais 3 ans en Afrique et sur un projet agricole en Afrique centrale. Et puis en revenant, c'est un peu en revenant quand vous avez passé 3 ans à l'étranger, surtout en Afrique en pleine brousse, quand vous avez 22 ans, vous revenez, vous avez 22, 23 ans, on est un peu largué par rapport à la vie ici en France. Et du coup, je me suis dit non, pour redémarrer doucement, j'avais choisi l'enseignement. Donc du coup, après, je suis parti en maison familiale. J'ai travaillé en maison familiale. Et je me suis dit, à un moment donné, en tant que formateur, je ne peux pas bien former si moi-même je ne participe pas concrètement à ce que je dis. J'avais très envie aussi de devenir paysan et j'avais pas la terre, donc j'avais pas les moyens de le faire. Et en même temps, j'étais enseignant, ça me donnait une terrible force et une terrible envie aussi de pratiquer. Et puis du coup, comme on est dans ce milieu agricole, comme c'est un milieu qui m'attirait énormément, voilà, j'ai rencontré ma future épouse et du coup, quelque part, son père avait une ferme. Elle ne voulait pas se marier avec un paysan. Ça tombait bien, je n'y étais pas à l'époque. Et puis du coup, à un moment donné, mon beau-père a pris sa retraite. Il n'y avait personne qui reprenait la suite. Et là, je me suis dit... Et un jour, il me propose la ferme en me disant, tu veux reprendre? Et j'ai dit, cette fois, il ne faut pas de ma décision. Et du coup, j'ai dit, allez, ma foi, banco, quoi, je reprends. Donc, c'est-à-dire que j'avais quand même un mi-temps d'enseignement. Parce que la réalité économique fait que, aussi, c'est pas simple. Et donc, du coup, c'était une installation à mi-temps, avec un mi-temps d'enseignement et un mi-temps qui était un plein temps pratiquement sur la ferme. Et je me suis aperçu par contre que de lire l'agriculture dans les livres ou de l'enseigner, de la lire dans les livres et que de la pratiquer ensuite il y avait un espèce de pas à faire et ce qui est dans les bouquins, c'est pas forcément ce qu'il y a dans la réalité, quoi. Et bien sûr qu'il y a du vrai dans les bouquins, sinon il y aurait pas de bouquins, bien sûr qu'il y a du vrai. Mais après, la mise en application et la réalité, elle est tout autre. Elle est tout autre.
Tu peux me parler de ce clivage?
Ça, c'est assez difficile d'arriver à préciser ça, ce pas à faire, tout au moins de passer du bouquin au pied dans les bottes. Du bouquin au pied dans les bottes, on découvre tous les paramètres quand on a les pieds dans les bottes. Dans le bouquin, on est face à un bouquin, face à des lignes, face à des mots. Et par contre, quand on a les pieds dans les bottes, on a tous les paramètres du vivant qui se manifestent, c'est-à-dire la météo, le moment, la situation, tout ce qui est logistique à côté, c'est-à-dire je suis à côté, je suis pas loin. Enfin, il y a tous les paramètres de tous les paramètres du vivant se mettent en place et on apprend. Le métier de paysan, c'est avant tout ça aussi, c'est d'apprendre à réveiller tous les sens. C'est-à-dire l'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher et le ressenti. Il y a un gros, gros boulot sur le ressenti. Et ça, quand on est les pieds dans les bottes, ça, on sort du bouquin, on n'a pas la même concentration et il faut avoir tous les sens en éveil. Ça, je trouve que c'est un gros... Enfin, moi, je le ressens comme ça. Après, pour d'autres, ça sera peut-être différent, mais ouais, c'est ça.
Je vais m'intéresser un peu à ton métier. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu l'expliques quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Ce que je fais, ouais, j'aime bien dire que je suis paysan, parce que du coup, ça réveille. On voit pétiller. Ce qui est vachement intéressant quand on dit ça, c'est qu'on voit de plus en plus. C'est ça qui est assez drôle. Et c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, j'aimais bien utiliser ce terme, parce qu'il a un côté un peu provoque, mais on voit pétiller les... On voit pétiller dans les yeux des gens à qui on dit ça. On voit pétiller plein de choses, quoi,
parce que c'est une espèce en voie de disparition presque.
Ouais, voilà, c'est un peu en voie de disparition. Oui, je pense, ouais, que le monde rural, que le monde agricole, le monde rural est en pleine mutation. Ça part pas forcément dans le bon sens. Heureusement qu'il y a des poches de résistance. Heureusement qu'il y a quand même une espèce d'émulation autour d'un autrement, quoi. L'agriculture autrement.
Tu dis l'agriculture autrement. Cet autrement m'intéresse. Autrement par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il faut changer? Pourquoi faire autrement ou différemment?
On a toujours tendance, à juste titre ou je sais pas, à opposer une agriculture conventionnelle et une agriculture bio. Ou une agriculture différente d'un autre côté. C'est vrai que c'est toujours un peu en termes d'opposition. Alors, l'agriculture autrement, voilà, c'est pas l'agriculture... Pour moi, c'est ça. L'agriculture autrement, c'est pas l'agriculture conventionnelle dans des schémas conventionnels. Voilà, c'est ça.
Pourquoi vouloir faire autrement?
L'agriculture conventionnelle, elle répond à des objectifs de marché. Elle est motivée avant tout par la finance. Elle va pas forcément être très très douce, très bienveillante avec le paysan qui la pratique, de par les marchés, de par ce qu'on lui demande de faire, de par le travail, l'engagement qu'il a par rapport à son métier. Je trouve que cette agriculture conventionnelle, elle est aussi, elle va faire usage de produits chimiques, elle va faire usage de choses qui sont pas forcément très très bonnes pour la nature. Elle va être gourmande en énergie fossile. Elle va faire beaucoup de déchets. La nourriture ou le produit alimentaire qui en est issu, il est pas tellement respecté. C'est une matière première. On parle de minerai même pour la viande. On parle de minerai. C'est une matière première qui va être travaillée par des groupes agroalimentaires. C'est une matière première qui est à bas coût, qui ne respecte pas grand monde, quoi, et qui n'a pas une grande valeur, je trouve, nourricière. Voilà.
Et c'est quand même un modèle qui est présent, qui a été imposé pendant plusieurs décennies. Pourquoi toi, qu'est-ce qui fait que tu as voulu t'éloigner de ce modèle-là pour retrouver d'autres formes d'agriculture, donc cultiver autrement, l'agriculture autrement?
Nous, l'agriculture autrement, ce n'est pas uniquement de produire sans pesticides, par exemple les produits bio, voilà, c'est produire sans pesticides. Mais pour moi, ça ne me va pas. L'agroécologie, elle va beaucoup plus loin. Et elle va dans une démarche un peu d'autonomie. C'est-à-dire que le paysan, il produit, mais il va transformer et il va aussi commercialiser son produit. Et puis le paysan aussi, avant tout, il va avoir cette notion aussi de se nourrir lui-même. Si vous êtes paysan, j'ai du mal à comprendre qu'un paysan ne puisse pas se nourrir avant tout de ses produits. Donc normalement, un paysan, il a ses patates, il a son jardin, il a ses haricots, il a ses fruits. Donc du coup, il faut savoir aussi replanter des arbres, il faut savoir rejardiner, il faut savoir élever ses poules, il faut savoir faire ses conserves, etc. Donc du coup, c'est un métier hyper riche, hyper polyvalent. Par contre, c'est un métier qui est hyper, qui demande des compétences, qui demande beaucoup de compétences. Et puis, c'est un métier qui demande beaucoup de temps, à passer beaucoup de temps, un temps qui n'est pas reconnu. Tout le temps, joignons-nous sur notre ferme de 35 hectares, on est deux avec Babette, l'autonomie, la recherche d'autonomie, aussi bien dans l'autonomie énergétique au niveau du bois, du chauffage de la maison, de la nourriture, de l'autoconstruction, etc., de tout ce qui gravite autour de la maison, autour de la famille et autour de la ferme, c'est pratiquement un mi-temps en autonomie, pour l'autonomie de la famille et de la ferme, enfin de la famille. C'est pratiquement un mi-temps qui n'est pas reconnu nullement. Du coup, je pense que le terme paysan, il englobe tout ça. Et l'agroécologie, elle englobe tout ça aussi.
Mais ce qui est intéressant quand je t'écoute, donc produire autrement, j'ai l'impression que c'est comme produire auparavant. C'était la même chose, hein, tu l'as bien dit, le paysan avant avait cette forme d'autonomie, connaissait son pays. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si on avait quitté un rail pour finalement y revenir.
C'est-à-dire que le paysan d'autrefois, effectivement, là, c'était l'autonomie, c'était un peu cette notion-là. Après, il faut le replacer dans un contexte d'une centaine d'années en arrière. La génération avant nous, c'était dans un autre contexte économique. Du coup, ils n'avaient pas. Je pense que c'était par défaut. Ils le faisaient parce qu'il n'y avait rien d'autre qui existait et ils le faisaient par défaut. Alors que nous, on le fait avec des valeurs et on le fait avec justesse pour retrouver une maîtrise, quoi. Alors effectivement, ça revient au même dans la pratique, mais par contre, le contexte ayant changé, on peut pas dire que c'est un espèce d'écart et on revient à une agriculture deux fois. Non, on le refait avec des valeurs beaucoup plus... avec d'autres valeurs. L'environnement, vous passez 70 ans ou 90 ans en arrière, l'environnement, on savait pas ce que c'était, quoi. Enfin voilà, alors l'environnement, on savait pas ce que c'était, puisque l'environnement, il était sain, il était nickel. Quoi. Donc par contre, ils produisaient comme ça parce qu'ils n'avaient pas d'autres moyens. Et c'est pour ça que l'agriculture conventionnelle, elle a été adulée. Parce que du coup, du moment qu'ils ont trouvé des pesticides, du moment qu'ils ont trouvé des désherbants, des trucs qui combattaient, qui permettaient de l'amélioration du rendement, ils s'y sont jetés dessus, les paysans. Mais on ne peut pas leur en vouloir. C'était pour eux du confort énorme. Parce qu'on s'aperçoit maintenant que nous, en agriculture bio ou en agroécologie, c'est énormément de boulot, quoi. C'est énormément de boulot parce que vous n'avez pas les armes. On est dans des logiques d'équilibre et on n'est pas dans des logiques de maîtrise. Heureusement que nous, on a à côté de nous aussi il y a des gens qui ont fait de la recherche. Il y a des gens qui ont expérimenté avant nous. On ne parle pas des instituts de recherche. Les instituts de recherche, ils n'ont pas. Ça abonde pas dans leur sens, les instituts académiques, on va dire, les instituts de recherche académique. Ils vont chercher plutôt sur les OGM, les biotechnologies ou le génie génétique. Mais nous, ça nous sert à rien, ces trucs-là. Nous, nos pères à nous, c'est les bio d'il y a 50 ans qui ont cherché c'est les pionniers, quoi. Ceux qui ont cherché, qui ont essayé de trouver des choses. Et puis, ils ont fait des... Tout ce monde-là qui a été accompagné, maintenant, ça y est, on a de plus en plus de références sur produire autrement. Donc c'est maintenant, on sait, on voit les équilibres, comment ils s'établissent, et ça nous permet, nous, de plus les accompagner, ces équilibres, ou de les pratiquer. Voilà.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Auprès du grand public, est-ce que tu vois une sorte de, comment dire, d'entrain, d'engouement, de, de ce que la profession est en train de changer. Ouais, tu disais avant le mot paysan donne des étoiles dans les yeux des gens. Donc.
Alors on voit pétiller. Alors je parlais des étoiles dans les yeux des gens avec qui on dit on est paysan. Mais il faut pas, comment dire, faut être assez aussi lucide sur le. Les gens qui ont les yeux qui pétillent, c'est les gens de notre réseau. C'est des gens qui ont déjà, qui portent déjà nos valeurs. Donc du coup, c'est vrai qu'effectivement, vous dites à quelqu'un qui a un peu une sensibilité sur l'environnement, etc. Je suis paysan en agroécologie. Effectivement, ça le fait tilter direct. Vous dites ça à un grand public, vous prenez un kidam qui est loin de ça. Du coup, vous lui dites, je suis paysan. Il va dire, mais c'est un plouc, quoi. Enfin, je veux dire, ça va pas le faire pétiller, quoi. On va pas le voir. On voit pétiller des gens qui portent nos valeurs et les gens qui portent nos valeurs. Effectivement, ils sont plus nombreux. Ça, par contre, je l'affirme haut et fort que ces gens-là sont de plus en plus nombreux dans les générations des 30, 40 ans, des 20, 30, 40 ans. Effectivement, il y a de plus en plus de gens qui ont ce côté, qui sont touchés par ce côté mieux se nourrir, respecter les gens, bienveillance, etc. C'est bien-être, le bonheur, etc. Donc, du coup, c'est des choses qui, effectivement, ça pétille chez ces gens-là. Voilà, il y a quand même une grande majorité aussi des gens qui sont loin de ça. Une grande, grande majorité. Voilà. Dans notre réseau à nous, c'est facile. Les gens sont déjà convaincus. Par contre, dès qu'on s'attaque à du grand public, c'est beaucoup plus difficile. Ça pétille moins. Il y a des valeurs à réveiller. Je pense que c'est dans les pensées des gens. C'est dans la pensée des gens que va se trouver le déclic. C'est pas dans du militantisme forcené sur l'agroécologie. Faire connaître ce qu'on fait, ouais, c'est super bien. Mais je pense que c'est d'une manière générale dans la pensée des gens qu'il faut que les pensées soient différentes. Il faut que le mode de pensée soit un petit peu différent. Et pour le moment, l'économie roi, l'argent roi, ne laisse pas trop la place à cette espèce de liberté, de cette espèce de liberté de penser autrement, de voir la vie différemment, etc.
Il y a quand même quelque chose qui nous unit tous, c'est on a tous besoin de se nourrir aujourd'hui, on va tous faire nos courses, on a tous besoin de s'alimenter, mais tout le monde ne se pose pas la question de ce qu'on met dans son assiette aujourd'hui.
Hélas, ce qu'on met dans son assiette, voilà, la plupart des ménages regardent le côté finance, font des choix, regardent le côté finance et surtout... On s'aperçoit de ça, font des choix plutôt de privilégier voilà, peut-être la téléphonie, peut-être aussi que certains n'ont pas de choix à faire, c'est ça qui est peut-être le pire, et c'est qu'ils ont le revenu est peut-être à tel point qu'on ne peut pas se permettre de penser autrement ou de se nourrir autrement. Parce que se nourrir autrement, c'est aussi, c'est pas que le produit qui compte, c'est peut-être se réapproprier. Le fait de cuisiner, le fait de préparer les choses, de les accommoder. Donc il y a un gros boulot, quoi. Ça veut dire reconnaître aussi le travail de préparer un repas, lui redonner du sens, etc. Manger, c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide d'aller acheter une pizza au coin et de se nourrir comme ça. C'est vite fait, ça coûte pas non plus une fortune. Mais le fait que si vous achetez des tomates fraîches, vous refaites... Vous achetez de la farine, vous faites votre pâte, vous refaites votre pizza, etc. Ça va prendre un temps, ça va vous prendre un temps fou, vous n'allez pas manger tout de suite, vous ne pourrez pas regarder les informations parce qu'elle ne sera pas cuite. Enfin bref, donc du coup, c'est un mode de vie qui est beaucoup plus lent. Donc du coup, à mon avis, c'est l'apprentissage de la lenteur sur la vie. Je pense que la vie, elle se nourrit de la lenteur, la vie. La vie, elle se nourrit de la lenteur, d'aller trop vite, on va se foutre la figure en l'air. Et quand on est paysan, en fin de compte, c'est ça aussi. Quoi. Quand on est paysan, vous apercevez que une salade, il va lui falloir, il va lui falloir peut-être un mois et demi, deux mois, tout dépend de la saison à laquelle vous avez mis votre graine, mais il va falloir deux mois pour en manger une. Si vous voulez manger un poulet, il va falloir peut-être cinq mois depuis poussin pour qu'il grossisse et que vous puissiez le plumer. Si vous voulez manger un œuf, faut attendre six mois chez une poule avant qu'elle pond un œuf. Donc du coup, il y a un usage des cycles auxquels on est soumis nous aussi en tant qu'humains et en tant que vivants. Donc il y a une espèce de une chronobiologie des choses, quoi. Et du coup, on s'aperçoit que c'est pas dans la rapidité. La rapidité, c'est l'informatique, c'est les trucs qui vous emmènent à fond la caisse, quoi. C'est plus du tout le même rapport aux choses, le même rapport aux gens, le même rapport à la vie, quoi. Donc voilà, la lenteur. Je pense que le paysan aussi, c'est quelqu'un qui... Il faut qu'il prenne le temps d'observer, de ressentir, de... Mais en même temps, qu'il soit quand même assez vigoureux aussi pour envoyer la sauce, pour bosser, quoi. Et puis pour, voilà, pour que... assumer la charge de travail et surtout un revenu, quoi. Un revenu, quoi. Faut pas rêver non plus, quoi.
Et donc, c'est possible aujourd'hui de vivre de ce métier. Tu parles d'un revenu. Plusieurs fois, tu m'as parlé de ces problématiques économiques. Mais bon, on peut s'en sortir aujourd'hui en tant que paysan ?
On s'en sort si on n'est pas... voilà, après, il y a cette histoire de lenteur qu'on parlait sur les choses. Et puis aussi, il y a cette histoire aussi de se contenter de modestie, quoi. Enfin, voilà, c'est Pierre Rabhi qui parlait de sobriété heureuse. Voilà, c'est ça. Ouais, la sobriété, c'est quand même quelque chose aussi qui est importante, quoi. Se faire plaisir avec des choses simples, voilà, pour avoir les yeux plus grands que le ventre. Et en étant frugal, quoi. Enfin, voilà, faut, voilà. Et en se faisant plaisir en même temps. Parce que la vie, c'est pas que du matériel, quoi. Enfin, voilà.
Il y a de la sagesse dans ce que tu nous dévoiles. Il y a des termes aussi que tu as évoqués. J'aimerais bien qu'on s'y intéresse un peu plus en profondeur et que tu me les définisses. À plusieurs reprises, tu utilisais le mot agroécologie. Donc peut-être me présenter ce que c'est que l'agroécologie.
Je trouve que les fermes en équilibre sont des fermes en polyculture élevage. C'est-à-dire on retrouve de la terre, mais sur laquelle aussi il va y avoir des animaux. Enfin, on parle d'animaux. Le mot animal, il anime aussi tout ça, quoi. Il y a des animaux. Après, c'est la place c'est les équilibres que l'on trouve que l'on met là-dedans. Polyculture élevage. Ouais, je trouve que c'est des systèmes qui sont intéressants. Voilà. Que culture, ça manque un peu d'animalité dedans. On va se retrouver peut-être avec des problèmes de. Enfin, les animaux, ils ont cette espèce d'intérêt de, comment dire, de recycler. L'animal, il a toujours un. L'animal dans les fermes, c'est avant tout un recycleur. Moi, je le prends comme ça. C'est quelque chose qui recycle. C'est un être vivant qui recycle. Il va recycler. Et la terre, elle, c'est avant tout pour le végétal. Les cultures, culture de blé, culture de céréales, culture de pommes de terre, culture de légumes, avec la présence aussi d'arbres qui est hyper importante. Et donc, du coup, voilà, polyculture élevage et agroécologie, c'est polyculture élevage, on va dire que ça définit plutôt un système ferme, un système de production, un système agricole, polyculture élevage. L'agroécologie, elle prend une dimension aussi humaine. Pour moi, elle prend la dimension humaine, c'est-à-dire que on va aussi être dans les circuits courts, on va s'occuper aussi des liens. Il y a une dimension qu'on oublie toujours, c'est que notre manière de produire à nous, elle influe aussi sur les pays en voie de développement. Donc du coup, quand vous produisez du poulet de manière industrielle et anarchique chez nous, on exporte des poulets sur le Sénégal ou l'Afrique et du coup on flingue les marchés africains en volaille locale. Donc du coup et pour le blé c'est exactement pareil, pour le maïs c'est pareil, pour le soja vous flinguez les paysans d'Amérique du Sud, du Brésil ou d'Argentine, les petits paysans vous les flinguez parce qu'on leur demande, il y a des grosses entreprises qui fabriquent du soja, qui font du soja là-bas pour nous alimenter nous. Donc du coup, voyez, donc notre manière de produire ici, elle influence aussi les pays du tiers-monde. Donc l'agroécologie, voilà, c'est vraiment aussi une dimension humaine. Plein de petites fermes valent mieux qu'une grosse ferme, donc on a intérêt à être beaucoup plus nombreux en tant que paysans sur un territoire plutôt que d'avaler le voisin. Voilà, donc c'est toute cette notion en agroécologie qui n'est pas que un cahier des charges très technique sur sans pesticides, sans OGM. Voilà, c'est nous, on sort un peu de ce cadre-là de la bio, on va dire, assez classique, sur un système qui est beaucoup plus... qui va prendre plus en compte l'humain, là-dedans. Avec le respect du sol, bien sûr, hein, essayer d'aller de produire de manière beaucoup plus autonome aussi sur l'énergie, avec l'énergie fossile, de faire attention, de réfléchir aux déchets que la ferme peut produire, déchets plastiques, etc. Enfin, voilà, toute cette dimension-là. L'agroécologie...
Ouais, beaucoup plus global, quoi.
Beaucoup plus global, ouais. Voilà.
Quand tu étais enfant, tu disais que tu rêvais déjà de ce rapport à l'animal. Donc finalement, tu as réalisé ton rêve.
Oui, c'est vrai. Mais une fois qu'on a réalisé le rêve, on n'a pas l'impression d'être dans le rêve, quoi. Donc du coup, quand c'est un rêve et qu'il est devenu réalité, après, voilà, c'est une... Je pense que ce côté de la rêverie, quand on a les yeux ouverts, à mon avis, c'est un travail de cultiver la joie et le bonheur. Ouais, ça, c'est franchement, c'est notre vrai salaire, quoi. C'est notre vrai salaire. Ouais. Et donc, du coup, c'est là où on sort du rêve et on est dans une belle réalité. Voilà.
La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine.